20h, 21h, France Info, les informés, Nicolas Crozel.
Bonsoir à tous et bienvenue dans les informés de France Info. Le coronavirus n'aura pas eu la peau de l'Union européenne, mais il l'a sérieusement bousculé. Il aura fallu 4 jours d'intenses négociations pour aboutir à un accord sur le plan de relance. Est-ce un bon accord? Est-ce la renaissance de l'Europe politique? Quid du couple franco-allemand face aux autres? Emmanuel Macron en sort-il grandi ou affaibli? Les questions ne manquent pas et nos informés du soir seront, c'est certain, inspirés par la question. Après les salaires, les moyens et la réorganisation de notre système de soins, deuxième vague d'annonces après le Ségur de la Santé, plus de lits à l'hôpital, des EHPAD rénovés et peut-être même un nouveau métier, mais encore. Et puis la gauche verte se sentirait-elle pousser des ailes après les municipales? Horizon 2022 pour ces maires sociaux écolos de Paris à Grenoble en passant par Nantes, Rennes ou Lyon. Ils étaient tous à Tours aujourd'hui officiellement pour parler uniquement de leur ville. On n'est pas obligé de les croire. Pour débattre avec nous ce soir, Albert Zeno, rédacteur en chef du service politique du Figaro. Bonsoir.
Bonsoir.
Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Bonsoir. Bonsoir Michel. Razia Madi, fondateur et directeur général du média New Thank Cities et enseignant à l'Institut Léonard de Vinci. Bonsoir Razia.
Bonsoir.
Et Yasmina Jaffar, journaliste et fondatrice de laruchemedia.com.
Bonsoir.
Bonsoir à vous et merci d'être tous là. La fumée blanche, donc, au bout de la nuit, après 4 jours d'un sommet marathon, les 27 se sont mis d'accord sur le plan de relance, subvention prêt à taux zéro pour aider les pays européens les plus touchés par la crise du coronavirus. Un accord arraché dans la douleur, mais pour lequel Emmanuel Macron s'est montré satisfait, et même un peu plus.
Je crois que nous avons aujourd'hui, avec ce sommet, vous l'avez dit, non seulement été l'un des sommets les plus longs de l'histoire, mais surtout, et avant toute chose, un sommet dont les conclusions sont véritablement historiques.
Voilà pour un extrait de la conférence de presse du chef de l'État qui est ce soir aussi aux 20h de TF1. Est-ce que c'est un bon accord qui a été arraché cette nuit? 390 milliards de subventions, 360 milliards disponibles pour des prêts remboursables par les pays, demanda Yasmina Jaffar. Équilibre subtil trouvé?
En tout cas, oui, c'est un accord inédit. C'est compliqué de dire que ça n'est pas un bon accord parce que là, on s'est rendu compte dans la nomination tout à l'heure des sujets, vous disiez la renaissance politique.
Ou c'est la naissance.
Voilà.
Le moment où je le disais. Voilà. Je me dis,
eh ben exactement. Donc c'est la naissance politique. C'est pour ça que c'est d'autant plus inédit. Parce qu'au début de la crise sanitaire, l'Europe était absolument absente. Et chacun essayait de regarder de son côté, en se tirant la couverture, qui peut le mieux sauver son image. Et l'Allemagne s'en est très bien sortie. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, on le sait, c'est son sujet, l'Europe, depuis le début. D'autres sujets ne sont pas les siens. On va parler par exemple des problèmes d'identité, ça n'est pas son sujet. Là, c'est son sujet et il peut être content de lui, parce que c'est une vraie réussite politique. Et c'est un bon accord parce qu'il y a une solidarité, il y a une volonté de faire face et d'exister politiquement par rapport au monde, en fait, et d'avoir une image importante. L'Europe existe enfin, en tout cas, elle est entendue. Maintenant, il va falloir qu'on ait le mode d'emploi. Comment vont être gérés ces sous?
Et justement, avant qu'on voit tout à l'heure, parce qu'on a plusieurs sous-dossiers à évoquer ensemble, les bénéfices éventuels d'Emmanuel Macron, ou sa réussite ou pas, restons sur le fond de l'accord, Michel Taube. Un équilibre subtil qui a été trouvé, et ça n'a pas été facile.
Ça n'a pas été facile, et ce n'est pas un accord, mais ce sont deux accords, parce qu'il y a un accord sur le volet sanitaire, c'est-à-dire l'aide aux pays qui ont été durement frappés par le coronavirus, l'Espagne, l'Italie, un peu la France, et quelques autres, mais il y a un deuxième accord dans l'accord, c'est sur le budget de l'Union européenne pour les années à venir. Et c'est cela aussi qui a été l'objet de longues tractations entre les membres de l'Union européenne. Et là aussi, un accord a été trouvé qui est plutôt correct, on va dire. L'Union européenne va partir avec un budget européen, encore une fois, qui est important. Et donc, c'est un double accord qui a été trouvé, ce qui explique aussi, encore une fois, la longueur des négociations. Et au final, si les Néerlandais et quelques-uns de leurs partenaires ont obtenu des conditions de bonne gestion des sous et des subventions qui vont être attribuées, dans l'ensemble, c'est quand même un accord politique majeur avec une dimension presque supranationale à cet accord. Et enfin, je terminerai là-dessus, la réussite du couple franco-allemand, parce que cette fois-ci, il a très bien fonctionné.
Alors, on aura l'occasion,
Michel, et ça fait partie, à mon avis, de la réussite dans la réussite.
On va se pencher sur ce couple Merkel-Macron, mais d'abord, Asim Hadi, je vous voyais, vous aviez l'air d'accord avec ce que disait Michel Taub, c'est un accord politique.
Oui, brièvement, moi je me mets à la place de nos auditeurs et qui se disent, mais attendez, on parle de centaines de milliards, de quoi on parle,
et d'où ils sortent.
Et d'où ils sortent. Alors, pour se mettre à la place de nos auditeurs et d'essayer de traduire pour eux ce qui est historique ou ce qui ne l'est pas, ce qui est historique, c'est que pour la première fois de l'histoire de l'Union européenne, l'Europe emprunte pour l'Europe. Et l'Europe emprunte pour les Européens. Voilà, c'est un fait. Ça n'était jamais arrivé.
En tant qu'entité, ça n'est pas
ensemble,
les pays.
Voilà. Alors, toujours pour nos auditeurs, emprunter pour la Hollande et emprunter pour la Hongrie, c'est pas la même chose. Parce que quand moi je vous prête de l'argent, selon vos revenus, je vais pas vous prêter la même chose et au même taux. Eh bien, c'est la même chose en Europe, parce que, par exemple, les Danois, qui font partie des frugaux, le PIB moyen d'un Danois, c'est plus de 65 000 dollars par an. Pour un Hongrois, c'est 17 000 dollars. Donc, si vous êtes dans le même pays, la France, et que vous avez, dans une certaine région de la France, des gens qui gagnent plus que d'autres, comme c'est le cas entre l'île de France et le reste. Bon, il y a une solidarité, il y a une péréquation, il y a des valeurs, il y a des règles communes. Bon. Et là, et c'est pour ça qu'il y a une durée des négociations, c'est qu'on peut se dire, il n'y a pas de valeur commune, il n'y a pas de principe commun, on ne peut pas respecter cet engagement si on ne sait pas si les gens respectent les droits de l'homme, et s'ils ne respectent pas un certain nombre de trains de réforme, lorsqu'on a un coefficient de 1 à 1,5 en termes de production de PIB. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Albert, il va payer 5 fois plus de taux d'intérêt que ce qu'il en payait avant d'emprunter avec François. Donc c'est un problème.
Complexe.
Et dernière chose, c'est que les pays ont aussi la politique économique de leur démographie. Quand vous êtes âgé, vous avez des retraites. Et votre retraite, ben, vous voulez qu'elle vaille la même chose aujourd'hui que demain, et demain qu'après-demain. Et en conséquence de quoi, il ne faut pas qu'elle soit dévaluée. Alors, et donc pour cela, il ne faut pas emprunter avec n'importe qui.
On fait une petite pause. Albert, que vous avez cité en l'occurrence, Albert Zenou n'a pas encore parlé. Il aura la parole après le fil info à 20h10. C'est Thomas Bénèche.
De nouvelles mesures de restriction en vigueur dès demain dans le Finistère pour y freiner la progression du nouveau coronavirus. Parmi elles, la fermeture dès 1h du matin au lieu de 2h des bars situés dans les communes touristiques, c'est ce qu'indique la préfecture. Pour aider les Français les plus précaires à se fournir en masques, plus précisément les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, relance de la distribution gratuite de ces équipements de protection du nouveau coronavirus, annonce du ministre de la Santé à l'Assemblée. Avant cela et en fin de matinée, 33 mesures dévoilées par Olivier Véran pour améliorer le fonctionnement et l'organisation du système de soins en France. Cela dans le cadre de la réforme de la santé. Parmi ces mesures, la création de 4000 lits à la demande en milieu hospitalier dès cet hiver. Le plan de relance de l'économie européenne de 750 milliards d'euros évoqué ce soir par le chef de l'État Emmanuel Macron. Il est invité du 20h de TF1. Ce plan d'investissement apprécié cet après-midi diversement à l'Assemblée. C'est une faillite tragique pour Éric Coquerel, député France Insoumise de Seine-Saint-Denis. C'est une avancée historique, juge de son côté le ministre des Affaires étrangères. Aux États-Unis, deux Chinois de 34 et 33 ans inculpés le 7 juillet dernier. Ces deux hommes accusés par le ministère de la Justice d'avoir mené des attaques informatiques et en lien avec leur gouvernement visaient des entreprises engagées dans la recherche sur le Covid-19.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, France Info, les informés. Nicolas Crozel.
Et on continue d'évoquer cet accord arraché la nuit dernière par les 27 pour un plan de relance économique en Europe. Après cette crise économique, Albert Zenou du Figaro, on ne vous a pas encore entendu nous donner votre sentiment. Vous êtes plutôt parmi ceux qui considéraient que c'est un bon accord, ou on entendait dans le fil info un accord tragique, disait la France Insoumise.
J'ai l'impression que cet accord, il est un peu comme l'école des fans. C'est tout le monde y gagne, tout le monde est gagnant. Quand vous écoutez les Danois, quand vous écoutez les Hollandais, quand vous écoutez les Hongrois, ils trouvent qu'ils ont gagné, qu'ils ont réussi à faire plier l'axe franco-allemand, qu'ils ont réussi à faire plier l'Europe du Sud qui gère mal son argent.
Le couple Emmanuel Macron, qui nous dit que c'est une victoire.
Voilà, que c'est une victoire. Et effectivement, on peut considérer que c'est une victoire malgré tout, puisque faire payer un emprunt par l'ensemble de l'Europe pour l'ensemble des pays, bien sûr que c'est une bonne chose. Après, il en reste pas moins qu'il y a des questions qui se posent sur le financement. Comment va-t-on emprunter? À quel taux? Alors, je sais que le commencement du début du début du début du remboursement, ce sera peut-être en 2027. Donc, jusqu'en 2057. Donc, ça laisse du temps de voir venir. Les subventions, elles vont être relevées sur... On ne sait pas encore vraiment sur quoi. Alors, un peu sur des taxes d'ex-carbone, donc plutôt écologiques, aux frontières de l'Europe. Mais ça ferait entre 5 et 14 milliards. Mmh. Une taxe sur les GAFAM qui ferait à peu près 1 milliard. Ça fait moins d'un milliard. Donc, il en reste quand même pas mal à trouver.
Sur la question financière, effectivement, c'est assez flou. Mais sur la question politique, pour qu'on essaye de progresser un petit peu, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que le couple franco-allemand a été au minimum ressoudé? Mais il n'est pas forcément conforté, puisqu'il ne suffit plus que Berlin et Paris parlent pour que les autres suivent, Michel Taube.
Il est plus que ressoudé. Honnêtement, ces dernières années, le couple franco-allemand avait eu du mal à assurer le leadership de l'Union européenne. Mmh. Lorsqu'il y a eu le Brexit et dans toute la phase de Brexit, les Français et les Allemands ont eu du mal à tenir le navire européen. Et là, il s'est passé une chose très importante, c'est que Angela Merkel a décidé que l'Allemagne changerait de camp. Qu'elle passerait des pays frugaux à des pays pas dépensés, parce que les Allemands ne sont pas dépensés, ce sont de très bons gestionnaires, mais capables d'audace financière pour une fois. Et c'est en fait Angela Merkel qui a fait basculer la réalité, c'est que c'est Angela Merkel alliée avec Emmanuel Macron et la France, bien entendu.
Mais
c'est
en gros, elle... ce que vous nous dites, c'est que si l'Allemagne a été restée du côté des frugaux,
la donne aurait été totalement différente. Non, l'Allemagne a décidé le 18 mai déjà, lors de la rencontre Angela Merkel-Macron, de passer de l'autre côté. Et je pense que ça a été... La victoire de ce soir, c'est le 18 mai qu'elle s'est nouée entre les Allemands et les Français.
Pour autant, il a fallu du temps, Michel Taube, pour qu'on y arrive. Malgré tout, il n'a pas suffi que les deux franco-allemands disent « on y va » pour que tout le monde suive.
C'est vrai que tout à l'heure, je parlais de l'image de l'Allemagne qui a été extrêmement positive dans cette crise. Et Mme Merkel, qui n'allait pas très bien politiquement, qui était un petit peu à la fin de son histoire politique, là, a su recréer quelque chose d'assez fort autour d'elle. Je pense que pour sa dernière aventure, elle n'avait pas envie de laisser quelque chose d'un petit peu sombre ou de maladroit. Et là, en effet, je suis d'accord avec Monsieur Taube, elle a changé complètement d'attitude. Elle a changé son fusil d'épaule pour être la plus souple possible, autant qu'elle puisse l'être. Et c'est intéressant de voir à quel point, finalement, un mastodonte comme ça, j'ai envie de les appeler le couple M&M's, un mastodonte comme ça, elle arrive à s'adapter. Mmh. Est-ce que nous, qui sommes le pays qui a sa tête, un président qui voulait transformer le pays et non pas le réformer, est-ce qu'on va arriver nous aussi à s'adapter sur d'autres sujets, parce que tout cet argent va permettre peut-être aussi des réformes, des facilités, etc. Est-ce qu'on va arriver à faire comme elle, à être subtil et fin dans la façon qu'on a de négocier les choses?
Razia m'a dit.
Écoutez, c'est un mal pour un pire ou un pire pour un mal. C'est-à-dire que moi, je trouve que le fait qu'on ait une mixité dans l'apport financier. C'est-à-dire à la fois de la subvention. Alors, juste pour nos auditeurs, encore une fois, auxquels on pense, les 390 milliards, là, ou 370 de...
Il y a 390 de subventions et 360
voilà, enfin, je vous donne juste un élément. Hein, la Chine est à 2400, les États-Unis 2900. Voilà, enfin, je dis que c'est une réussite sur le principe, parce que l'Europe emprunte pour l'Europe et les Européens empruntent pour les Européens. Mais sur le volume, si je vous donne les agrégats dans les grandes zones économiques du monde, il y a quelques nuances à avoir. Bref, deuxième élément essentiel. Vous ne pouvez pas analyser cette situation si vous ne prenez pas en compte les calendriers et l'environnement électoral des uns et des autres. Le Premier ministre hollandais, il a des élections dans quelques mois. Et lui, ses électeurs, ben, c'est des retraités qui ne veulent pas payer pour les Portugais, qui ne veulent pas payer, et y compris pour les Français. Mmh. Voilà, on a trop de jours fériés, on n'a pas assez de productivité, il n'y a pas assez de réformes, ils regardent à la télé qu'on dépense des centaines de millions et des milliards pour l'hôpital public, ils ne comprennent pas, parce que leur hôpital public il coûte moins cher et il fonctionne bien. Je ne dis pas que c'est bien, hein, je suis d'accord avec ça. Je parle de l'auditeur hollandais, là. Bon. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Angela Merkel, elle a pensé à un moment donné que le relais de croissance, c'était l'immigration. Et elle a dit, j'ouvre les portes. Elle a une population qui vieillit. La France va passer en termes de PIB devant l'Allemagne en 2034.
par la dynamique démographique et d'autres points. Elle voit qu'elle est face à un mur et elle pense qu'il n'y a que l'Europe qui peut être le relais. Et puis, il y a aussi quelque chose que les commentateurs et certains économistes ont pointé du doigt, enfin, plutôt les économistes que les commentateurs, c'est qu'on a une maladie porcine. L'Allemagne est le premier exportateur mondial de porc. Si jamais on a ce sanglier malade qui traverse la frontière de la Pologne et de l'Allemagne, ce sont 20 milliards d'euros en moins dans le PIB allemand.
Et ça, forcément, ça fait
réfléchir. Donc,
L'Allemagne a un besoin vital de l'Europe. Effectivement, donc, c'est le pays le plus gros exportateur, c'est la première économie de l'Europe, et il faut absolument une Europe qui soit en forme économique. Et donc, c'est un moyen aussi pour Angela Merkel de redonner un peu de vie à cette Europe, d'autant que depuis le 1er juillet, elle est à la tête, elle préside l'Union européenne. Donc, elle sait sa dernière année, elle s'en va dans pas plus d'un an, elle quitte la politique. Donc, elle veut laisser une trace. Oui, mais elle veut laisser une trace dans l'histoire. C'est une manière aussi pour elle de dire, j'ai fait quelque chose en Europe. Effectivement, l'axe franco-allemand qui était un peu la tarte à la crème des commentateurs diplomatiques sur l'Europe. Mais là, il fallait redonner un peu de vie à cet axe franco-allemand qui est vital malgré tout pour la construction européenne. Il a été depuis toujours et qu'il le sera sans doute encore pour quelques années.
Sur la question du financement à l'instant, Emmanuel Macron qui dit ce soir, ce n'est pas le contraire. Contribuable français qui paiera le plan de relance, dit-il. Ça interroge aussi, pas d'impôts européens, Yasmine Jaffa.
Exactement.
Il va bien falloir à un moment trouver les sous aussi.
C'est l'argent magique.
C'est justement cet argent. Enfin,
Yasmine Jaffa. Il s'en prend sur le marché financier.
On le paiera d'une autre manière. Enfin,
oui,
on emprunte déjà tous les jours.
Mais à des taux d'intérêt plus faibles. Parce que c'est l'Union européenne qui va emprunter. Oui. Et ça, je pense que c'est quand même très important.
Plus faible pour
qui?
Taux d'intérêt. Plus faible pour qui? Si l'Italie empruntait
pour nous, toute seule, les citoyens européens.
Oui, mais elle emprunte. Ou la France empruntait toute seule, ça serait plus que si on était sur le même taux que l'Allemagne.
En tout cas, ça ne sera pas de l'argent magique, dit le président de la République ce soir. On va continuer ce débat.
Il y a des marchés financiers qui gagnent l'argent.
Nous, on donne plus à l'Europe que ce qu'elle nous renvoie. Allez, financièrement. Et ensuite, avec ce prêt-là, sur les subventions, on est en somme positif de 40 milliards.
On va faire une petite pause dans ce débat passionné, un peu technique quand même, mais passionné. 20h20, le Fil Info, Thomas Bénèche.
40 milliards d'euros de subventions touchées par la France dans le cadre du plan de relance de l'économie européenne adopté ce matin par les 27 pays membres. Cette somme utilisée pour financer l'emploi des jeunes, les petites et moyennes entreprises, la rénovation thermique des bâtiments. Cette utilisation rappelée ce soir par le chef de l'État, invité du 20h de TF1. 4000 lits à la demande créés dès cet hiver en milieu hospitalier, l'une des 33 mesures dévoilées aujourd'hui par le ministre de la Santé et dans le cadre du volet structurel de la réforme du système de soins français à l'heure du Covid-19. Pour aider les Français les plus précaires, les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire relance pour eux du dispositif de distribution de masques gratuits. Annonce du ministre de l'Assemblée au Palais Bourbon à l'Assemblée. L'émotion à Vénissieux en banlieue lyonnaise, un registre de condoléances et de soutien mis à disposition par la mairie. Cela après ce violent accident hier soir sur l'autoroute A7 à hauteur d'Albon dans la Drôme. 9 membres d'une même famille touchés, 5 enfants tués, 4 autres personnes gravement blessées et hospitalisées. En football, la distanciation face au Covid-19 respecté ce soir par les supporters parisiens et selon le correspondant de France Info présent en ce moment au Parc des Princes, le PSG opposé en amical au Celtic Glasgow, 3-0 pour l'instant pour les Parisiens.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, France Info, les informés. Nicolas Crozel.
Et on continue avec Albert Zenou, Michel Taube, Razia Hamadi et Yasmina Jaffar de commenter cet accord arraché la nuit dernière pour un plan de relance économique en Europe après la crise sanitaire et la crise économique. Il y a un point quand même qui est peut-être passé un peu inaperçu, c'est le fait qu'il n'y a pas finalement dans cet accord de conditions sur l'état de droit pour bénéficier de ces sommes. Ça a été un temps un point de blocage. Là, c'est la Hongrie qui a gagné, incontestablement. Est-ce que c'est dangereux, quand même, Razia Hamadi?
Écoutez, il y avait deux sujets. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus être la caricature sur les frugaux. Parce que les frugaux, ils ont quand même dit, on veut conditionner les aides à un certain nombre de réformes structurelles du point de vue économique, mais on veut aussi regarder le respect de l'état de droit. Pour le coup, ce sont de vrais libéraux. Ok, on vous donne de l'argent, mais en contrepartie, on va être sûr que vous mettez pas des juges en prison, qu'on n'assassine pas des journalistes et que les enquêtes mènent 3 ans pour parvenir à une inculpation, alors qu'on sait qui est-ce qui, plus ou moins, a commandité.
Sur ce point-là, ils n'ont pas gagné. Voilà. Sur ce point-là, non, ils n'ont pas gagné.
Bien que médiatiquement, on dessine des camps, mais les choses sont un peu plus compliquées.
Mais c'est pas les radins contre les. Non, c'est non, ça non. que vous voulez dire.
Voilà. Et donc moi, je suis très triste et profondément choqué que on ait abandonné cette clause, parce que bon, après, en termes de négociation, c'était pas possible. Mais moi, ça me gêne en tant que citoyen français de savoir
pays des droits de l'homme.
Oui, ça me gêne.
Que la réelle politique l'a emporté une fois de plus.
De savoir que la modulation des taux que je paierai et que mes enfants paieront seront plus forts et donc je paierai plus le remboursement de la dette, malgré le fait qu'on ne conditionne pas le respect de l'état de droit à l'utilisation
des fonds. La réalité, moi je viens du milieu des droits humains, donc je pense savoir de quoi je parle. La réalité, c'est que chaque État a un droit de veto et qu'on ne pouvait pas imaginer que la Hongrie ou la Pologne mettent leur veto à des conditions qui, de toute façon, s'appliquent déjà. Parce que, par les traités même de l'Union européenne, les États membres sont tenus de respecter les droits humains et libertés. Et il y a d'ailleurs des procédures actuellement qui sont en cours, qui n'iront pas très loin, j'imagine. Mais elles existent déjà. Il y a des procédures judiciaires intentées par la Commission européenne contre la Hongrie et contre la Pologne pour manquement au respect, notamment, de l'indépendance de la justice dans ces pays. Donc, il me paraissait malheureusement inévitable.
C'était
que
inévitable
ces conditions
parce qu'on est sur le droit de veto. Vous êtes
voilà,
d'accord.
Mais voilà, alors, c'est, du coup... c'est un rapport de force. Mais encore une fois, les clauses de respect de l'état de droit, elles sont déjà, non pas imposées, parce qu'on ne peut rien imposer, mais elles sont déjà dans, comme une épée de Damoclès avec des procédures actuellement en cours au niveau de la Commission européenne. Après, je vais vous dire, c'est les peuples qui décident. En Pologne, il y a eu des élections présidentielles il y a 15 jours, où le pouvoir a failli basculer vers un président plus libéral et plus respectueux des principes européens de l'état de droit. C'est que par là surtout que les choses vont bouger. En tout cas, il faut l'espérer.
Oui, Yasmina Jaffar, recul sur les droits de l'homme quand même, pour arriver à cet accord. Ça vous heurte, vous aussi?
Un petit peu, mais c'est vrai que c'est compliqué de gagner sur tous les terrains, que tout le monde puisse être absolument équivalent dans un sujet, dans un moment aussi compliqué, parce qu'il y a des pays riches et des pays moins riches, il y a des pays du Sud et des pays du Nord, et c'est la réalité.
La solution, c'est quoi? C'est qu'on arrête l'unanimité pour avancer plus vite? Ça, c'est un vrai
alors,
débat.
C'est Roland qui s'est
Albert,
faut dire une chose aussi, c'est que la Pologne et la Hongrie sont certes pas des modèles de vertu et pas des modèles de démocratie dite libérale, mais sont quand même des démocraties. Il y a encore des élections. Comme il rappelait Michel Taube, il y a quelques jours, les conservateurs l'ont emporté. Mais ils l'ont emporté à la régulière, a priori. Enfin, donc, là aussi, lier l'emprunt, lier l'accord au respect de l'état de droit, c'est bien, mais c'est un peu une vue de l'esprit. C'était difficile de leur imposer ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles, là aussi, je reviens à ce que je disais au début, c'est tout le monde a gagné. Et eux aussi, oui, voilà, ils ont gagné.
C'est exactement ça. C'est un équilibre, tout le monde y gagne.
Oui, de toute évidence, même si évidemment le couple franco-allemand est encore plus à l'honneur. Mais ce qui est intéressant, et le président de la République le disait tout à l'heure à 20h17, parce qu'on a la chance de pouvoir le regarder tout en étant avec vous, il parlait très clairement de cet endettement commun et il rappelait très précisément qu'il rassurait en tout cas les Français pour leur dire que ça n'était pas eux les impôts et de leur poche qu'ils allaient.
Il parle d'entreprises avec des taxes, notamment d'entreprises dans le numérique.
Voilà, et ça c'est assez inédit de pouvoir créer un endettement commun. Le mot endettement fait un peu peur, mais en tout cas il est commun. Et ça permet d'avoir un peu une hauteur de vue et de voir qu'une Europe qui a été créée pour régler des problèmes plutôt en temps de paix arrive en temps de crise à être plutôt exemplaire.
Deux choses. La première, c'est quand il y a unanimité, moi ça m'inquiète. C'est-à-dire que quand tout le monde est d'accord, c'est que je me dis qu'il y a un problème.
Mais enfin, ça n'avance que comme ça l'Europe, depuis le plan Marshall.
C'est pour ça qu'elle n'avance pas d'ailleurs.
Oui, c'est le sens de ma question. Est-ce que finalement, pour qu'elle avance, il faut quand même que ça saute.
À l'unanimité, on se dit que tout le monde a trouvé son. Voilà, tout le monde trouve son
beurre. C'est le plus petit consensus.
Moi je crois que. Aujourd'hui, on a eu 200 000 morts en Europe. On a un pays, la France, qui dépense depuis 30 ans 2 000 milliards en cumulé pour la défense, qui représente pour tous les frugaux la moitié. C'est-à-dire qu'eux, ils ont dépensé 1 000 milliards. On protège l'Europe. On est au Sahel. il y a aujourd'hui des poids démographiques différents. Et dès qu'il s'agit d'avoir une cohérence budgétaire, des priorités économiques et financières, on est sur une règle de l'unanimité. Moi, j'ai envie de vous dire, ce soir, c'est un pis-aller et c'est historique parce que pour la première fois, l'Europe emprunte pour l'Europe et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs. Et bravo ! Et la détermination de tous les engagés et chefs de gouvernement sur le sujet est à féliciter et à saluer. Maintenant, ma conviction profonde, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe telle qu'elle fonctionne ne peut pas répondre aux grands défis du siècle.
En 10 secondes, Michel Thom.
En 10 secondes, les agriculteurs, les régions françaises, notamment ultramarines, sortent confortés de cet accord. Parce qu'encore une fois, il y a l'accord sur le budget européen pour 7 ans. En février dernier, les Européens n'avaient pas réussi à s'entendre. Et là, le budget de l'agriculture est consolidée, le budget des régions, notamment ultramarines, c'est très important de le dire, ça fait aussi partie des bonnes nouvelles de cet accord de cette nuit dernière.
Allez, on se retrouve après l'info sur France Info et la météo pour la deuxième partie des informés.
La paire. Pas très envie d'entendre votre portail grincer tout l'été. Jusqu'au 3 août, la paire vous présente les portails à prix doux. Moins 20% sur tous les portails pour un été tout en douceur. Chut, écoutez. Oui, non, pardon, il n'y a plus grand-chose à entendre, en fait.
La paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie.
Conditions sur lapaire.fr.
France Info Météo, avec le CIC. Agir sur le terrain, près de vous, maintenant. CIC, reconstruisons dans un monde qui bouge.
C'est l'été en France, Sébastien Léas.
Des orages localement forts, porteurs de grêle et donnant beaucoup de pluie en peu de temps sont encore à craindre du Massif central aux Alpes ce soir ainsi que sur les Pyrénées. Quelques averses localement orageuses seront possibles dès la matinée en Aquitaine et de l'Aveyron et la Lozère à Rhône-Alpes et au Jura. Mais c'est surtout l'après-midi que les orages seront les plus nombreux. Localement, de la grêle sera encore possible, notamment sur le sud du Massif central. Le soleil sera plus généreux encore sur le pourtour méditerranéen, mais des grisailles pourront rester tenaces sur les plages du Languedoc. Sur la moitié nord, la journée sera à nouveau largement ensoleillée sous un ciel légèrement voilé. Les températures sont encore chaudes pour la saison demain, variant entre 26 et 35 degrés l'après-midi, mais seulement 20 à 25 degrés le long des côtes de la Manche et sur le Nord-Pas-de-Calais.
Merci beaucoup Sébastien Léas et à tout à l'heure. Passez une belle soirée, le retour des informés. C'est dans 2 minutes, il est 20h30. L'info avec Claire Briguet-Lamarre.
Les revenus de nos agriculteurs sont garantis pour les 7 ans qui viennent, assure ce soir Emmanuel Macron. Les 40 milliards d'euros reçus de Bruxelles représentent 40% du budget nécessaire à la France pour son plan de relance. D'après coronavirus, estime le chef de l'État interviewé dans le JT de TF1 ce soir, après la signature d'un accord obtenu au forceps à Bruxelles. Plus de souplesse, une organisation plus simple, c'est ce qui était promis avec le Ségur de la Santé. 4000 lits supplémentaires créés, annonce Olivier Véran, destinés à être ouverts selon les besoins pendant une épidémie de grippe, par exemple. Autre mesure annoncée, les salaires de certains médecins remplaçants, parfois astronomiques, seront désormais limitée. La mesure est contestée. Elle vise pourtant à protéger les femmes victimes de violences. Les médecins n'ont plus pour obligation de respecter le secret médical s'ils estiment que leur patiente est en situation de danger et sous l'emprise d'un conjoint violent notamment. C'est une perte d'autonomie des femmes, regrette le Conseil de l'Ordre des sages-femmes. Des mots de compassion, de soutien laissés à Vénissieux, un registre de condoléances déposé après la mort dramatique de 5 enfants dans un accident de voiture hier soir sur l'autoroute A7. 3 autres passagers, tous de la même famille, sont entre la vie et la mort. La justice enquête sur l'état d'entretien du véhicule qui datait de 2005. Une enquête ouverte confiée à la police des polices. Un adolescent de 16 ans grièvement blessé à l'œil dans le 18e arrondissement de Paris. Cela s'est passé dans la nuit du 13 au 14 juillet, victime d'un tir de LBD. Kylian Mbappé jouera quoi qu'il arrive au PSG la saison prochaine. L'attaquant vient de le dire au cours d'un match amical contre le Celtic Glasgow au Parc des Princes. Et bientôt, 20h32 sur France Info, la suite des informés avec Nicolas Crozel.
20h, 21h, France Info, les informés, Nicolas Crozel.
On est de retour sur France Info avec ce soir Yasmina Jaffar, journaliste fondatrice de la ruchemedia.com, Razi Hamadi, fondateur et directeur général du média News Sang Cities, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, et Albert Zenou, rédacteur en chef du service politique du Figaro. On évoque depuis le début de cette émission ce passionnant débat sur l'avenir de l'Europe politique et économique après l'accord de la nuit dernière à Bruxelles. Ça a duré longtemps parce que la règle de l'unanimité est toujours en place. On l'évoquait avant la pause. Si on se penche maintenant sur les bénéfices politiques, peut-être pour le chef de l'État Emmanuel Macron, parce qu'Albert Zanou dit tout le monde a gagné, et notamment Emmanuel Macron.
Surtout.
Est-ce qu'on peut dire qu'il sort conforté, au moins sur la scène européenne, de ces 4 jours de marathon ?
Il sort conforté sans doute, mais sur la scène nationale, il sort très conforté, je pense. Il va faire vivre cet accord pendant le reste de son mandat. C'est sûr
ce soir, sur TF1, il dit que les Français le verront dans leur vie quotidienne, les bénéfices de cet accord. On a un peu de mal,
à comprendre comment ça va arriver
jusque dans notre vie quotidienne.
Notamment en septembre, quand les plans sociaux vont commencer à débouler un peu partout et que le chômage va augmenter de façon considérable. Enfin, c'est attendu. Mais donc, ça va être difficile. Mais effectivement, lui, il va en tirer un bénéfice considérable. On sait que c'était le candidat le plus pro-européen en 2017. Il avait toujours misé sur l'Europe. Il avait toujours dit qu'il en ferait un axe principal de son développement et de sa politique. Jusqu'à présent, on ne le voyait pas beaucoup sur la scène européenne gagner des choses. Il était un peu, le français caricaturé souvent par les étrangers, un peu arrogant, en disant que je vais faire. Puis au final, il n'y avait pas grand chose qui arrivait. Là, pour l'instant, il arrive et il est dedans et il obtient un vrai succès personnel. Donc, je pense qu'on va en entendre beaucoup, beaucoup parler. Donc, le service après-vente a commencé ce soir. Oui. Il va commencer dans les jours qui viennent et dans les mois qui viennent. On entendra beaucoup parler de cet accord.
Comme il y a eu d'autres chefs d'État français qui ont eu un sommet européen qui a marqué leur quinquennat ou leur septennat. C'est un peu ça qui s'est joué pour vous, Yasmina Jaffa.
Oui, c'est vrai que c'était son envie, sa conviction, sa motivation. C'est l'Union européenne, une fédération, quelque chose d'assez fort, d'au-dessus de tout. Il avait provoqué Donald Trump.
Historique,
il l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, et il avait provoqué Donald Trump avec cette armée européenne, donc il va très très loin dans ses volontés, et il fait comme Lacan a dit, il ne cède pas face à ses désirs, donc il prouve à quel point l'Europe est importante pour lui, et c'est vrai qu'il n'avait rien réussi jusqu'à présent, mais parce qu'aussi, on l'a dit tout à l'heure, Madame Merkel ne lui concédait pas grand chose. Là, elle était un petit peu plus en joute et en envie avec lui, donc ça a pu fonctionner. Mais là, le service après-vente aussi est fait ce soir à 20h, et c'est aussi inédit, de la même manière que l'accord est inédit, réagir à 20h le soir même d'un accord, c'est incroyable, d'un point de vue communicationnel, il est au top, on va dire, il va aussi vite que le tweet de Donald Trump.
Michel Taube.
En fait, sur TF1, il a dit que c'est le moment le plus important depuis la création de l'euro. Selon lui, c'est-à-dire depuis 1998. Je pense que ça l'était pour lui, Emmanuel Macron. Parce qu'effectivement, ce qui se joue quand même depuis maintenant plus d'un an et demi, c'est la crédibilité du chef de l'État sur la scène intérieure, le dossier des retraites qu'il n'arrive pas à faire aboutir, tous les grands engagements, les grandes promesses qu'il avait faites ont du mal à aboutir. Et là, effectivement, sur l'Europe, il a joué son quinquennat, Emmanuel Macron. Il a joué son quinquennat. Et ce n'est pas qu'une question de service après-vente.
Donc, en miroir,
c'est vraiment une question
de ses échecs intérieurs.
Les électeurs ne se prononcent jamais sur l'international.
Actions,
c'est pour ça. L'Europe, ce n'est pas tout à fait international.
Oui,
Emmanuel Macron dit que ce n'est pas le contribuable français, mais le contribuable européen qui va payer l'emprunt. Évidemment, il parle de nous aussi. Mais quand même, on n'est pas tout à fait sur l'international. Et honnêtement, il a joué très gros sur cet accord. Et il en sort plutôt conforté.
Qu'il allait m'expliquer.
Oui, on dit que les Français ne votent pas sur les... et c'est pas faux. Sur les enjeux internationaux, un détail près, c'est que lors de la dernière élection présidentielle, il y en avait un parmi les candidats qui a dit « Moi, je suis pro-européen. » Pendant que tous les autres disaient « Je ne le suis pas. » En conséquence de quoi, il y a bien au moins 23 ou 24% de pro-européens en France, ce qui a permis de fournir un levier électoral qui était au-delà. Mais bien sûr, c'est pour ça que je parle de levier électoral qui a permis 21 à 22% minimum pour Emmanuel Macron au premier tour. Deuxième élément, ce qui est historique, c'est qu'en effet, jamais l'Union européenne n'avait emprunté. Vous avez entendu ce que je vous ai dit
tout à l'heure. Oui, ça, j'ai compris.
Tout à l'heure, je vous ai dit que les sommes étaient ridicules comparées aux autres grands continents.
Mais le principe
d'emprunter pour les autres, ça n'était jamais arrivé. Donc, voilà, c'est un pied dans la porte. C'est-à-dire que.
Et ce qui est nouveau aussi, c'est qu'en effet, on avait un blocage sur le budget européen, et ça, ça se débloque. Maintenant, concrètement, est-ce que l'Union européenne, malgré ses questions de principe, ses évolutions historiques, démontre qu'elles sont unifiées, ces nations, au sein de l'Union européenne, capables de dépasser les grands défis? Au regard de la durée des termes du débat, rien n'est moins sûr.
Il faudra peut-être le voir sur une crise de démocratie, sur une crise politique, sur un conflit armé, on verra peut-être, effectivement.
La seule petite chose qui pourrait embêter le succès d'Emmanuel Macron, c'est lui-même, parce que parfois, ou même souvent, il ne sait pas vendre ses succès. Les différentes réformes réussies, je ne sais pas, les petites actions réussies, le plan pauvreté, d'autres choses comme ça, qui ont existé, qui ont été des avancées majeures pour ce pays, ont été absolument mal vendues. Les réformes sont, ou les transformations sont souvent mal expliquées, donc il y a un problème de pédagogie, d'explication, de lien avec le réel, et d'expliquer aux Français ce qu'est cet accord aujourd'hui. Et en effet, Albert Zeno a raison, c'est un peu loin quand même pour nous, même si c'est pas totalement international, ça reste proche de nous, l'Europe. Il va falloir maintenant expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui avec des mots très clairs et très simples, un peu comme le faisait Édouard Philippe.
Pour on va dire, vous comprenez ce que disait Édouard Philippe. Politique,
voilà, pour qu'on puisse comprendre pourquoi, comme il l'a dit tout à l'heure, ça va rejaillir sur les citoyens français.
Albert Zeno, dans le Figaro, demain, on va lire Bravo Macron.
Non, on va se poser des questions demain sur justement sur le, sur la, cet accord et cet accord historique en tous les cas, mais on se posera des questions qui sont toujours en suspens.
Oui, et accord qui doit encore être ratifié par les parlements nationaux, ce qui est souvent qu'une formalité, mais enfin quand même respectons la démocratie européenne. Mais voilà, mais c'est quand même un accord important,
c'est un accord
et c'est
important,
une victoire.
Mais
pour
vous serez d'accord avec moi qu'avant qu'un chef d'État gagne 10 points de popularité sur un accord arraché à Bruxelles, il y a de la marge quand même dans l'opinion. Ça. Incontestablement.
C'est des infos que nous n'avons pas.
Non, mais par le passé, cher Razi Hamadi, on a rarement vu une popularité.
Si, c'est arrivé une fois, c'était sur le sauvetage de la Grèce. Vous vous rappelez, avec François Hollande, il avait gagné 7,5 points. Ce qui était suffisamment historique pour que je m'en souvienne.
Il les a vite perdus.
Vous qui étiez proche de François Hollande à l'époque.
J'étais proche des miens.
7,5, je ne sais pas, c'est peut-être un peu beaucoup.
Rappelons, puisque vous aimez parler.
Tsipras, vous rappelez les photos, tout ça.
Razi Hamadi, rappelons, puisque vous aimez parler à nos auditeurs directement, qu'il fut un temps où vous aviez une carrière politique.
Fut un temps.
Parti Socialiste. On va se retrouver pour parler du Ségur de la Santé dans la partie suivante des informés, si vous le voulez bien, puisqu'aujourd'hui, on a eu quelques annonces dans la réorganisation et le fonctionnement du système de santé par le ministre Olivier Véran. C'est juste après le fil info, le fil info à 20h40 avec Claire Briguet-Lamarre.
Je veux que nos concitoyens mesurent ce qu'il s'est passé durant ces 4 jours et ces 4 nuits. C'est le moment le plus important de la vie de l'Europe depuis la création de l'euro. Le chef de l'État interrogé ce soir sur TF1 après l'accord signé très tard dans la nuit à Bruxelles pour un plan de relance de 750 milliards d'euros. Les masques ne seront pas fournis gratuitement pour tous, précise également le président de la République après l'annonce d'Olivier Véran de distribuer des masques au public précaire. Les 4000 lits à la demande, c'est parfait pour la grippe, mais il y a un problème tout de même qui demeure. Problème structurel. Commente sur France Info le cofondateur du collectif Interhôpitaux après les annonces du Ségur de la Santé. Eurolines, société d'autocar, va mettre la clé sous la porte d'ici 3 jours, placée en liquidation judiciaire, victime de trop de concurrence avec des opérateurs de transport à bas coût comme Blablabus. Quasiment deux ans, jour pour jour, après l'effondrement du pont de Gênes et la mort de 43 personnes, un nouvel ouvrage va voir le jour dans cette ville du nord de l'Italie, baptisé Pont San Giorgio, fruit d'un an et demi de travaux. L'Olympique de Marseille contre-attaque. Le club phocéen annonce avoir assigné en justice Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjelal, candidat déclaré au rachat de l'OM. Le club leur reproche de mener une campagne de déstabilisation.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, France Info, les informés, Nicolas Crozel.
Et on va évoquer à présent le Ségur de la Santé, les annonces du jour après ces 2 mois de discussion sur l'avenir du système de santé français. La semaine dernière, on a eu des informations sur les salaires des soignants. Aujourd'hui, Olivier Véran, le ministre de la Santé, en a dit plus sur les décisions à propos de l'organisation et les moyens de fonctionner du système de soins en France, à commencer par des ouvertures de lits dans des hôpitaux, des lits à la demande. C'est un nouveau concept.
Il faut prévoir l'ouverture ou la réouverture de lits dans les structures de médecine en fonction des besoins. En période hivernale, quand on est grenoblois, ou en période estivale, quand on est, je ne sais pas, d'Arcachon, il faut être capable de tenir compte de cette saisonnalité, de cette variabilité. C'est pourquoi nous allons engager l'ouverture ou la réouverture de 4000 lits hospitaliers, que j'appelle des lits à la demande et que les établissements de santé seront à même d'ouvrir en fonction des besoins.
Alors, des lits à la demande, ça soit original quand on en a besoin en fonction de la géographie. Razia m'a dit, bonne idée, principe de réalité.
Il faut rentrer dans le détail. Ça serait,
4000 lits. Hein.
Non, mais ce serait un manque d'humilité de vous dire ce que je comprends la phrase. C'est quoi? C'est on téléphone, on a un lit à la demande.
Mais c'est un peu, oui. C'est...
Bon, ouais, on est d'accord. Mmh. Bon. Par contre, ce qu'on comprend, c'est plus de flexibilité, de l'agilité au niveau des régions, des territoires. Et c'est ce dont a besoin aussi l'hôpital public. Parce qu'aujourd'hui, uniformiser l'apport de moyens et de financement n'est pas adapté forcément à ce que sont les défis aujourd'hui. On l'a vu avec le coronavirus. À un moment donné, on peut avoir besoin de plus de lits à un endroit qu'à un autre. C'est ce que dit d'ailleurs le ministre Olivier Véran. Mais globalement, sur le dispositif mis en place, si je devais résumer mon propos en une phrase, il y a des moyens financiers mis comme jamais. Il faut rentrer dans le détail. Mmh. On a un accord majoritaire des partenaires sociaux, ce qui là aussi est historique et suffisamment rare pour le souligner. Et quelle que soit notre sensibilité, je suis un homme de gauche, mais on ne peut pas demander non plus à ce gouvernement en 3 ans
de régler,
de répondre
à tous les problèmes.
De répondre. Alors qu'il met plus de 25 milliards sur la table, si on met tout en cumulé, à 30 ans d'abandon de l'hôpital public, y compris par des majorités auxquelles j'ai appartenu lorsque j'étais député.
N'en déplaise aux Hollandais, vous le disiez tout à l'heure,
qui trouvent des Danois.
Alors Yasmina Jaffa.
C'est pour ça que les médailles du 14 juillet n'ont pas du tout satisfait le personnel médical qui est tombé extrêmement malade et qui a dû être des super-héros en permanence. Les appelait les héros du quotidien, ça ne suffisait pas. Et il le sait très bien, le président. Donc là, aujourd'hui, il fallait ce plan et avoir des actions concrètes. Elles sont très attendues parce que nous sortons d'une période traumatisante et nous ne savons pas encore, je ne vais pas dire le mot deuxième vague parce qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire, mais nous ne savons pas encore ce qui nous attend. Donc on ne sait pas du tout si, comme on ne sait pas si c'est saisonnier, là, le ministre a dit que peut-être il fallait des lits dans des périodes où on est un petit peu plus touché par des grippes.
Mais il parlait des virus saisonniers. Voilà. Ça de la traumatologie du ski, et lui qui est grenoblois, il évoquait Grenoble, on sait bien pourquoi, etc.
Ça peut être à n'importe quel moment, on peut être touché par quelque chose d'assez inattendu, et des pandémies comme celle-là, les spécialistes l'ont dit, nous en aurons d'autres. Donc maintenant, il faut réagir.
Non, Michel Taube.
Non, moi, ce qui m'étonne vraiment beaucoup, c'est un problème de timing chez le président de la République et dans le quinquennat Macron. Parce qu'effectivement, dans le Ségur de la santé, il y a énormément de choses. Il y a une vraie remise à plat, une tentative de redéfinition du système de santé français, et c'est très bien. Il faut d'ailleurs saluer le travail qu'a fait Nicole Nota, qui a quand même joué un rôle clé dans la préparation de cet accord. Mais nous sommes à moins de 2 ans de l'élection présidentielle, et c'est vrai que la plupart de ces mesures, je pense humblement, qu'elles ne seront pas mises en œuvre à court terme. Et même, elles ne pourront probablement pas, en termes législatifs et en termes de structurels, être mises en œuvre avant des années.
Mais donc c'est plus... Ça voulait dire quoi? Si on ne le faisait pas maintenant, on ne le faisait pas du tout.
Oui, mais ça, en fait, je comprends bien que la crise du coronavirus est... Dans cette tragédie, une opportunité de redéfinir beaucoup de choses. Mmh. Et notamment dans le domaine, évidemment, de la santé. Mais encore une fois, combien de ces mesures, de ces 33 mesures, seront appliquées sous le quinquennat Macron? Je pense qu'il n'y en aura pas énormément. Deuxième point, je voudrais dire, très important, que j'ai relevé, et qui est, à mon avis, une empreinte de Jean Castex, nouveau Premier ministre, c'est qu'il redonne dans le plan, dans le Ségur de la santé, une importance très forte au département, en demandant notamment que les ARS, les agences régionales de santé, fassent descendre au niveau des départements les décisions d'investissement et d'adaptation du système de santé. Et cette force donnée aux départements, on la retrouve également dans les mesures qu'a annoncé Jean Castex ces derniers jours, au niveau du dialogue social et des mesures pour l'emploi qui vont être prises. Et ça, c'est une vraie petite révolution, parce qu'on était plutôt, depuis ces 10-15 dernières années, notamment lorsque mon voisin Razia Madi était député socialiste, à donner aux régions une grande importance.
Et à créer des grandes régions.
Voilà. Et là, apparemment, il y a un pari qui est fait sur les départements plus proches de nos concitoyens, des réalités et des diversités de notre pays, qui est très vaste et qui est extrêmement plurielle sur le plan territorial.
Albert Zenou, on revient aussi à une autre organisation, même dans le fonctionnement et dans le financement, parce que j'ai plus la tarification à l'acte qui a été tant décriée. On a des enveloppes a priori défini surtout suivant les besoins. Ça va dans le bon sens?
Ça va plutôt dans le bon sens, en tous les cas dans le sens que réclamaient les soignants. Oui. Alors moins les gestionnaires d'hôpitaux, mais plus les soignants. Donc ça c'est une bonne chose. Il y avait une obligation pour Emmanuel Macron et son ministre de réussir ce Ségur, de donner non seulement de l'argent, puisqu'ils en ont donné beaucoup, et on voit que quand on donne de l'argent, il n'y en a jamais assez, de toute façon. Les organisations syndicales trouvent, voilà, oui, c'est pas mal, mais on peut faire mieux. On peut faire
si on se souvient, il y a un an, c'était 70 millions, c'était pas assez, puis après c'était 700 millions, oui, et puis il y a eu le coronavirus.
Il y a une réalité de vie derrière aussi.
Et puis maintenant, oui, donc, mais il y a en tous les cas, il y a une volonté de faire quelque chose et de donner aux soignants un nouvel outil. Et ça, c'est une bonne chose. Mais comme le rappelle, comme le disait Michel précédemment, quand est-ce que tout ça sera mis en route? Alors, bien sûr qu'il faut le lancer, et puis sinon, on le fera jamais. Mais il y a une volonté d'être efficace et que ces réformes, ces changements, ces mesures entrent tout de suite en œuvre. Et ça, c'est plus compliqué. Mais ça, c'est un problème de politique publique.
C'est un problème de la durée des mandats et de la difficulté à avancer aussi et à réformer un pays.
C'est ce que me disait d'ailleurs un député cet après-midi, Bruno Ketel, qui ne tarissait pas d'éloges vis-à-vis du Premier ministre Castex. Il me disait, grâce à lui, la première année du septennat de Emmanuel Macron commence.
Oui, septennat,
Mais c'est préjugé, un peu vite du vote de nos concitoyens en 2022.
Alors, pour pas aller trop vite, sur les dispositifs, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que moi, je reste solidaire aujourd'hui de notre personnel hospitalier, qui est pris en otage à la fois d'une carence, d'une absence à la hauteur des financements chroniques depuis des dizaines d'années, mais qui est aussi pris en otage par une désorganisation et une incompétence administrative érigée en système dans l'hôpital public. Donc, ce que moi j'apprécie dans ce qui est dit, en plus des 13 milliards d'annulation de dette, en plus des 7 à 8 milliards mis sur la table sur la revalorisation financière, et je peux comprendre que certains considèrent que ce n'est pas assez lorsqu'on regarde la moyenne des paiements aujourd'hui pour les infirmiers et les autres personnels hospitaliers dans le reste de l'Europe. Ajoutez à ça les 8,1 milliards du Ségur, ce que j'apprécie, c'est qu'en plus on dit, ben oui, on va réduire la tarification à l'acte et son poids dans le budget des hôpitaux. Oui, on va accélérer la télémédecine. Oui, on va essayer d'avoir des dispositifs qui permettent une articulation plus efficace entre la médecine et la ville. Mmh. Donc, est-ce qu'il y aura là, pour le Premier ministre Castex, un biais pour s'engouffrer dans une décentralisation permettant un peu plus d'agilité pour notre médecine au plus proche des territoires, parce que c'est bien ça qu'il y a de plus important? Je l'espère.
Eh bien, on va en rester là, sur ce débat, sur l'hôpital. Certainement, ça reviendra dans l'actualité dans les prochains jours, il n'y a pas de doute. Juste après le Fil Info, on va parler de la gauche verte qui se réunissait à Tours. Aujourd'hui, après les municipales. 20h50, le Fil Info, Claire Briguet-Lamarre.
Il n'y a aucun droit de veto. Certains États le réclamaient, mais il y a un respect de la souveraineté de chaque État membre, assure le chef de l'État ce soir après la signature d'un accord entre les 27 à Bruxelles. C'est le moment le plus important de la vie de l'Europe depuis la création de l'euro, ajoute Emmanuel Macron, interrogé sur TF1. Il fait partie du code de déontologie médicale et pourtant le secret médical n'est plus obligatoire désormais dans certaines situations. Quand un médecin juge que sa patiente est en grave danger, notamment en cas de violence conjugale, eh bien alors il pourra en avertir les autorités. C'est une proposition de loi destinée à mieux protéger les femmes. Tout cela est très positif. Le système de santé va vivre des heures qui vont lui permettre de se renforcer. Réaction sur France Info du président de la Fédération hospitalière de France aux annonces du Ségur de la Santé. 4000 lits supplémentaires notamment qui seront ouverts si besoin. L'ouverture d'une enquête confiée à l'IGPN, la police des polices, un adolescent de 16 ans grièvement blessé à l'œil par un tir de LBD dans la nuit du 13 au 14 juillet dans le 18e arrondissement de Paris. Et puis Kylian Mbappé jouera, quoi qu'il arrive, au PSG la saison prochaine. L'attaquant vient de le dire au cours d'un match amical entre le Celtic Glasgow donc et le PSG. C'était au Parc des Princes.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, France Info, les informés, Nicolas Crozel.
Et on va maintenant parler de politique française et de la gauche qui tente de surfer sur les municipales pour se refaire une place dans le paysage politique national. Hier, on parlait de Laurent Geoffrin et de son association Engagez-vous qui veut réveiller la gauche réformiste. Certains voient d'ailleurs déjà l'ombre de François Hollande derrière tout ça. Aujourd'hui, ce sont les héros des municipales qui se trouvaient retrouvés à Tours, les maires écolos ou socio-écolos, la gauche verte, vous appelez ça comme vous voulez, autour d'Anne Hidalgo, maire de Paris, d'Éric Piolle, maire de Grenoble, et ceux de Nantes, de Poitiers, de Rennes ou encore le patron de la métropole lyonnaise. Officiellement, c'est pour parler que des villes et du réseau de villes. On est obligé de les croire, Yasmina Jaffar ?
Non, surtout pas. En fait, soit ils surfent, comme vous le dites très justement, sur la vague verte, soit c'est l'énergie du désespoir. C'est l'angle.
Ah, pourquoi l'énergie du désespoir ?
Parce qu'on ne sait pas où est la gauche en ce moment, ouais. Et ça fait un moment. Et là, peut-être que c'est l'occasion pour elle de s'unifier, d'exister et de surfer en effet sur ce succès vert. Les villes les plus importantes de France sont parties de ce côté. Mmh. Il y a aussi des femmes à la tête de certaines de ces villes. Et donc il y a un succès qui est là, clairement. Il y a tout un... On va dire que l'écologie est à la mode. Il y a une conscientisation des Français par rapport à ce sujet très très fort. Donc peut-être que là, il y a peut-être un discours à avoir sur 2022 autour de... C'est pas du greenwashing, ouais. Peut-être comme maquillé comme un camion volé et un peu exubérant comme ça. Peut-être qu'il y a une réalité derrière et une volonté, mais c'est plutôt une occasion pour moi de réaliser un espèce de hold-up comme l'avait fait Emmanuel Macron en 2017.
Alors Éric Piolle parle de réseau de villes, le maire de Grenoble. On a eu du mal à imaginer que l'horizon 2022, pour empêcher justement le septennat de François, d'Emmanuel Macron d'avoir commencé aujourd'hui, c'est peut-être ça aussi l'idée. Hein.
Moi je pense que plus que de désespoir, je parle d'espoir. Je pense que la gauche aujourd'hui a une chance historique, même comme si on en revient à l'accord conclu par Macron en Europe, a une chance historique de se refaire quelque chose, de faire quelque chose. Emmanuel Macron a dérivé vers le centre droit, laissant un espace politique vierge. Et alors après le problème pour la gauche, c'est Mélenchon. Alors c'est très bien ce que font à la fois Geoffrin.
De moins en moins.
Ce qu'on fait aujourd'hui les maires PS et écologistes. Alors ils viennent à Tours. Tours c'est marrant parce que c'est à la fois le congrès de Tours donc qui a donné naissance au Parti communiste il y a un siècle. Et c'est aussi là que Dumont a lancé la campagne du premier écologiste René Dumont en 1974. Donc il y avait quelque chose de symbolique. En plus une ville qui est tombée chez les écologistes il y a deux semaines. Donc bien entendu ils ont tous en vue 2022.
Bien sûr.
Oui. Évident.
Mais du coup, c'est ça que je vous disais, quelle gauche ? Parce qu'en fait, Michel Taube, par exemple, Anne Hidalgo a une alliance qui n'est pas forcément la même à Paris que celle qu'Éric Piolle. Il ne faut pas oublier qu'il y a, par exemple, à Grenoble, ce sont les Insoumis qui sont à côté de lui alliance.
Les choses ont quand même beaucoup évolué parce qu'il y a une tentative de réinvention de la gauche plurielle, mais ce sont les écologistes qui sont en train de devenir le centre de gravité. Alors, avec une nuance qui est importante, c'est que quand même, la vague verte dont vous parliez tout à l'heure, elle est quand même surtout urbaine et dans des grandes villes.
Ah oui,
et
on parlait d'un réseau de villes.
Dans la société française. Mais quand même, il y a une tentative là, de réinvention de la gauche plurielle dont, et c'est ça la nouveauté, dont les Verts sont en train de devenir le centre de gravité aux grandes dames de Jean-Luc Mélenchon, qui se pensait le leader de la gauche, et on se rend compte de plus en plus que ce sont les écologistes qui vont devenir les arbitres entre la gauche social-démocrate et la gauche d'extrême-gauche. Je termine en disant, c'est une gauche pastèque. C'était, elle est verte à l'extérieur, mais elle est rouge à l'intérieur. Bon. Et ça va être le problème. Et ça va être le problème de cette gauche, si elle veut arriver au pouvoir, c'est d'arriver à construire un contrat de gouvernement avec les Français, et non pas uniquement de contestation ou de réinvention d'un nouveau monde dont on sait très bien que socialement et économiquement, il serait extrêmement coûteux.
Razia écoutez, m'a dit, moi je suis de socialiste.
Non, moi je suis de gauche. Je sais pas ce que ça veut dire aujourd'hui, vu ce que c'est devenu. Je suis de gauche, je suis écologiste, et en même temps, je trouve qu'il y a des choses que peut faire le gouvernement qu'il faut saluer. C'est pas le sujet. Moi, je veux que notre planète elle vive longtemps et qu'elle vive longtemps pour nos enfants et dans de bonnes conditions. Donc moi, je pense que ce qui s'est passé au municipal, c'est une bonne nouvelle aussi en termes de prise de conscience. Lorsqu'on voit le backlash sur, enfin les documents bâclés sur lesquels on a pu travailler, notamment chez New Stank Cities, sur par exemple ce que c'est qu'une zone à faible émission, sur ce que sont les territoires à zéro carbone. On n'a pas pris conscience à l'échelle des zones urbaines du défi. Et donc, les citoyens, les citoyennes, faut pas les prendre pour des idiots. Ils savent très bien ce qu'ils respirent, ils voient très bien ce qui se passe sur la route, et ils veulent des villes plus écologistes. Maintenant, cet espoir, faudrait pas qu'il se transforme en division. Parce que la ville la plus progressiste de l'État, le plus conservateur des États-Unis, elle s'appelle Austin, dans le Texas. Et ce développement-là, c'est un développement qu'on a vu dans beaucoup de pays dans le monde. Vous avez des villes écolo, progressiste, ben oui, etc. Donc vous avez les progressistes, écologistes des villes
dans les centres
et
villes,
les populistes des champs. Il ne faut surtout pas faire ça. Et moi, je suis content de ce qui s'est passé à Tours. Je suis heureux de ce qui s'est passé
mais
à Tours parce que
pas
les gens se
parlent.
Mais j'aurais aimé que symboliquement, il y ait des maires de village, des maires de villes de périurbaines.
Il y en a quelques-uns, on va en trouver.
Oui. Ceux qui disent, ouais, mais attendez, c'est moi, mes électeurs, ils sont obligés de prendre la voiture. Qu'est-ce qu'on fait en termes d'infrastructure publique et transport.
Lui, hein.
Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on prend sa voiture en Île-de-France? Parce qu'il y a 6 autorités organisatrices des métropoles. Pourquoi on prend sa voiture des mobilités? Pourquoi on prend sa voiture? On prend sa voiture parce que les transports sont de mauvaise qualité. Ils n'arrivent pas à l'heure.
Et dans les campagnes, on prend sa voiture parce qu'on n'a pas de transport.
Mais bien sûr. Bon, et ben alors, moi, ce que je crois être l'essentiel de la discussion, c'est que c'est bien ce qui s'est passé dans les villes, mais il y a plus grave que le fait que ça ne s'étende pas, c'est qu'on oppose les campagnes aux villes, comme malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas, à l'instar du Grand Paris, construit un destin commun. Nous avons la périphérie qui s'oppose au centre de la ville, et ça, c'est ce qu'il y a de plus grave et de plus dur pour l'écologie de demain.
Ça s'appelle la question sociale.
La suite de ce mouvement gauche-vert. Très vite, parce que c'est fini, les informés. Albert Zénou, la une du Figaro demain.
Europe, question sur un accord historique.
Michel Taube, on lit quoi sur Opinion Internationale?
Alors, on va parler le champ entre la santé et les libertés individuelles autour du masque et du risque de retour du coronavirus.
Yasmina Jaffar, La Ruche Média.
L'avocate Sarah Chériti va nous parler de l'entreprise, du droit et du chômage partiel, la mise à disposition du personnel. Elle doit être strictement encadrée.
Ah, vous faites court, hein, Razier.
Ah oui, deux sujets principaux, l'évolution de l'immobilier de bureau et puis Valérie Bédag, aussi une interview de Nexity sur l'évolution de l'immobilier dans nos villes.
Merci beaucoup à vous quatre. Merci à tous de nous avoir suivis. Les informés reviennent demain à 20h.